Donc Josué, chapitre 11. Jabin, roi de Hatsor, ayant appris ces choses, envoyait des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Achaph, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinneret, dans la vallée, et sur les hauteurs de Dor à l'occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Éthiens, aux Phérésiens, aux Jébuséens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Mérom et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la Grande, jusqu'à Misrephoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpah vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. À son retour, dans le même temps, Josué prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée, et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on mit le feu à Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatsor qui fut brûlée par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse son serviteur, et de Moïse à Josué, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le midi, de tout le pays de Gozen, de la vallée, de la plaine, de la montagne, d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent tout en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Akanim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda, et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoie par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis, le pays fut en repos et sans guerre.
Eh bien, c'est un passage difficile quand on le lit. On voit beaucoup de personnes tuées, beaucoup de peuples qui disparaissent parce que c'était l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Et le peuple d'Israël, eh bien, s'est établi à cet endroit-là. Pour nous qui arrivons à la 21e siècle, un récit de ce genre nous trouble beaucoup parce qu'on voit beaucoup de morts. Et même, il est dit, il n'y eut pas pour eux de miséricorde. Et nous avons du mal à comprendre qu'il n'y avait pas de miséricorde pour eux. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, Et il est venu apporter la paix, il est venu apporter la miséricorde. Mais sans Jésus-Christ, c'est la justice, c'est la loi, c'est le jugement, c'est la condamnation. C'est le problème qu'il y a de ces personnes qui n'ont pas voulu se repentir. Quand nous avons vu il y a quelques semaines le passage où Gabaon a fait la paix avec Israël, alors bien sûr c'était avec une ruse, c'était avec des moyens détournés. Ils ont trompé le peuple d'Israël. Mais ils ont dit, nous avons entendu que Dieu avait dit à Moïse. Il y avait des renseignements qui étaient arrivés jusqu'à eux et ils avaient fait la paix parce qu'ils ont voulu vivre et ils se sont joints au peuple d'Israël. Mais les autres peuples n'ont pas voulu, justement. Et donc là, nous sommes dans une guerre au nord, la guerre qui a suivi l'intégration des Gabaonites à Israël. Eh bien, c'était une guerre au sud. Et quand la paix que les Gabaonites ont fait avec Israël a déclenché la guerre au sud. Et là, il y a une guerre au nord. Mais il y a un petit peuple au milieu de cet immense territoire qui a eu la crainte de Dieu et qui a décidé de faire la paix avec Dieu. Donc le jugement n'est pas tombé sur ces gens-là. Par contre, les autres se sont endurcis et ils n'ont pas voulu faire la paix. Ils ont dit, nous voulons nous défendre, on est nombreux, on a des géants avec nous, parce que quand Samuel nous a parlé des Anakim, le reste des Anakim hein, qui étaient dans les montagnes, eh bien c'était des géants, c'était des gens particulièrement grands. Il y a dans cette région-là, on a retrouvé des tombes. Bien entendu, il n'y a plus rien dans ces tombes, mais ce sont des tombes gigantesques. Elles sont très 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 grandes. Et on imagine que les gens qui étaient enterrés là n'avaient pas notre taille. Et même les hommes les plus grands qu'il y a sur notre terre aujourd'hui, eh bien, ne pouvaient pas, étaient beaucoup trop petits pour ces tombes-là. Donc elles ont été faites pour des géants. Donc on soupçonne que c'est ces fameux géants qu'il y avait, surtout que ça correspond au même endroit, même récit. Le récit situe ces géants à cet endroit-là, et c'est là qu'on a retrouvé ces fameuses tombes. Donc c'était des géants, et c'était des... comment dire... quand nous lisons dans la Genèse, les géants, c'était il y avait des relations sexuelles entre des anges déchus et des humaines. Alors, ne me demandez pas comment les choses se font, j'en sais rien. Mais le fait est que ces gens-là existaient. Et ils étaient particulièrement grands et même particulièrement disproportionné dans certaines choses. Par exemple, Goliath, c'était un de ces géants. Il est dit, hein, il n'en restait qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. C'est le pays des Philistins. Et pour ceux qui ne... vous allez apprendre que Goliath était de Gath, et il avait 6 doigts. Alors, même, il y a des différences fondamental, parce que 6 doigts, il faut qu'il y ait d'autres muscles et qu'il y ait une autre morphologie. 6 doigts, c'est plus que d'avoir un 6e doigt. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il... Je ne suis pas médecin, je ne suis pas anatomiste, je ne connais pas grand-chose de tout ça, mais j'imagine que les doigts, ben, il faut des muscles, et ça correspond à tout à fait... un autre type humain. Et là, donc, c'était des gens, même s'ils avaient une certaine proportion comme la nôtre, eh bien, c'était une anomalie. C'était des sortes de monstres. Et alors, il y avait une contamination dans tous ces peuples de pratiques qui... L'histoire des Anakim n'est pas... ne donne pas beaucoup d'explications, mais cela nous montre que quand même, il y avait des pratiques qui diaboliques Il y avait de l'occultisme qui était poussé jusqu'à une très grande, très loin. Par exemple, quand on parle de l'Antichrist, eh bien l'Antichrist, c'est un produit de démons et d'humains. C'est quand on parle de l'Antichrist, eh bien c'est quelqu'un de ce genre. C'est ce genre de rapport sexuel qu'il y a avec une humaine. Et il est appelé un fils du diable. Alors, quand le peuple d'Israël est arrivé, c'est un peuple que Dieu avait choisi, qui était là pour exercer un jugement, pour prendre le pays, mais pour exercer un jugement sur ses peuples. C'est parce que il y a un temps pendant lequel Dieu est patient. Il attend longtemps. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il donnerait le pays, c'était à une certaine époque, vers 1800 avant Jésus-Christ. Mais quand le peuple d'Israël s'est emparé du pays, c'est 430 ans plus tard, et même davantage à cet endroit-là. Donc c'est de la longue patience de Dieu. Ce sont des peuples qui se sont endurcis dans la débauche, dans la corruption, dans des choses qui étaient irréversibles. Et si Dieu n'avait pas arrêté ce genre de pratique, eh bien, il y a une déchéance, une décadence humaine qui appauvrit la race, l'humanité, et qui finit par disparaître. Et Dieu a arrêté cela parce que ces pratiques amenaient à la fin de l'humanité. Alors, je ne peux pas tout expliquer, hein, mais je pense que ce sont des raisons suffisantes. Et c'est comme cela que l'on peut expliquer pourquoi Dieu a demandé que tous ces peuples-là soient détruits. Et ces peuples-là n'avaient absolument pas l'intention de changer. À part les Gabaonites, qui eux ont vu la nécessité du changement et de s'intégrer à Israël, les autres ne l'ont pas vu et ont refusé de faire partie d'Israël. Parce que quelque part, ils auraient pu avoir un peu d'imagination et essayer eux aussi. Et ils se seraient dit, après tout, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que les Gabaonites qui auraient la vie sauve et nous, on ne serait. Mais ils se sont dit, nous sommes nombreux. Nous sommes un peuple immense. C'est tous les peuples du nord de ce territoire qui se sont ligués ensemble, qui ont fait une grande alliance entre eux, pour justement faire face à Israël. Le sud, il y a cinq rois, et elle est beaucoup plus petite que l'alliance du nord. Quand il y a eu cette coalition, c'est plutôt une coalition, cette coalition était quelque chose de très grand, et il est dit, hein, ils étaient comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'était un peuple immense qui s'était amassé là pour faire la guerre à Israël. Et ils se sont dit, nous sommes les plus forts. Nous avons des géants avec nous. Nous avons des chars. Nous avons des chevaux. Nous avons des armées. Nous avons des soldats. Nous avons des hommes de guerre. Qu'est-ce que ce sont ces gens-là? Ce sont des gens qui ont traîné dans le désert. C'est d'anciens esclaves qui se sont échappés de l'Égypte. Se sont dit, nous allons faire qu'une bouchée de ces gens-là. Et puis, ils se sont retrouvés perdant dans cette guerre. C'est vrai que si nous voulons faire une application à nous-mêmes, eh bien, c'est vrai qu'il y a une guerre. Nous ne sommes plus aujourd'hui à faire des guerres avec des armes. Le Seigneur Jésus-Christ nous a amené à autre chose. Nous a dit que la guerre, elle était spirituelle. Et ce n'est pas contre la chair et le sang, c'est Paul qui le dit aux Éphésiens. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel. Et je peux vous dire, c'est un combat acharné, parce que le diable n'a aucune pitié. Si nous avons quelques sentiments, si même le plus mauvais humain peut avoir un sursaut de bon sens et de sentiments, hein, ne serait-ce que pour un enfant, pour son fils ou sa fille, eh bien le diable n'a rien. Il ne connaît rien de tout ça. L'amour, il ne sait pas. La miséricorde, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est que la douceur. Il ne sait pas ce que c'est que la patience. Toutes ces choses sont des qualités divines et qui viennent de Dieu. Et Satan n'a pas toutes ces choses. Il n'a même pas le commencement de quelque chose de bon. Et nous, eh bien, le combat que nous avons à mener, c'est contre lui et contre toutes ces puissances démoniaques qui nous entourent. Et je peux vous dire aujourd'hui, nous sommes là dans cette salle, eh bien, il y a des gens qui regardent et qui sont, disons, des êtres qui regardent. Il y a des anges qui contemplent l'Église et qui se réjouissent de l'Église parce qu'ils voient dans l'Église les qualités infiniment variées de Dieu. Ils voient le plan de Dieu. Ils voient le salut en Jésus-Christ. Ils voient des personnes qui veulent marcher avec le Seigneur. Ils voient combien le sang de Jésus-Christ a effacé tous nos péchés et a changé même nos dispositions, notre manière de faire, notre manière d'être. Et ils se réjouissent. Mais à côté de cela, il y a les mauvais. Et ils contemplent aussi. Et avec haine. Vous ne pouvez pas imaginer toute la haine que Satan peut avoir pour nous. Il veut vraiment notre ruine, mais Dieu est avec nous. Et c'est vrai que c'est une application que nous pouvons faire, un de ces passages, à notre vie chrétienne. Il y a une immensité de puissances mauvaises qui veulent notre ruine, qui veulent tout changer, qui veulent nous amener à renoncer à marcher fidèlement, qui veulent nous convaincre que c'est eux les plus forts. C'est eux qui auront le dernier mot finalement. Mais celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu. Je peux affirmer devant toutes les puissances dont je viens de parler tout à l'heure, aussi bien les bonnes que les mauvaises, et devant vous, celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu. C'est Satan qui aura la défaite. Il aura peut-être plus vite qu'il le pense. Et sa ruine avance chaque jour. Sa ruine fait un progrès d'un jour. Il va vers sa fin et vers sa perte. Mais nous, eh bien, nous voulons marcher avec le Seigneur. Nous voulons vivre la vie chrétienne. Nous voulons vivre ce qui plaît à Dieu. Nous voulons faire ce que Dieu approuve, ce qui honore Dieu. Et si vous n'avez pas compris que la vie chrétienne est un combat, alors vous avez encore besoin de l'apprendre. Parce que c'est un combat acharné où l'ennemi veut nous détruire. Il faut être vigilant, il faut vouloir gagner la victoire et puis faire tout ce qui va dans le sens de la victoire. Quand on voit ce qui s'est passé à cet endroit-là, eh bien on voit que ces peuples se sont réunis à une multitude. Ils ont réuni des chars, des chevaux, beaucoup de choses, beaucoup. C'était le peuple d'Israël. Aurait eu de quoi être effrayé. Et vous savez ce qui s'est passé? Donc ils ont fixé, c'est le verset 5, « Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. » Mérom, c'est un petit lac qui est au nord du lac de Galilée. « L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tout frappés devant Israël. Et Dieu dit, tu couperas les jarrets des chevaux et tu brûleras au feu les chars. Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. » Au lieu d'être effrayé devant cette multitude et devant ce déploiement de force, eh bien, ils les ont attaqués. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est que ces personnes, eh bien, ont eu peur. Et ils n'ont pas pu se battre comme il le fallait. Malgré leurs chevaux, malgré leurs chars, malgré toutes leurs armes, malgré leur expérience, malgré leur nombre, malgré tout, eh bien, ils ont perdu. Parce que ce groupe, cette armée d'Israël, qui était très inférieure en nombre, et inférieurement équipés probablement aussi, eh bien, ils ont eu la victoire. Ils ont eu le courage de les attaquer. C'est le combat de la foi. Ils ont dit, Dieu a dit, ne les crains point. Alors ils sont allés, et ils les ont combattus. Alors il y a ici une petite question, hein. C'est les chevaux et les chars. On brûle les chars à la limite, ce n'est pas un problème. Mais couper les jarrets de chevaux, on se dit, mais comment Dieu avait ordonné, parce que c'est Dieu qui l'a dit, hein, il a ordonné de couper les jarrets des chevaux. Ce qui fait, c'est que le peuple d'Israël n'était pas un peuple de cavaliers. Et c'était d'anciens esclaves. Les esclaves n'apprennent pas à monter à cheval. Ce sont les gens riches, les maîtres qui montent à cheval. Les esclaves n'apprennent pas à monter à cheval. Donc, c'était pas leur habitude. Quand ils combattaient à pied. Mais ils avaient en face d'eux des cavaliers. Et un cavalier est redoutable pour quelqu'un qui est à pied. Il se déplace très vite et il est parfois armé. Il porte des armes plus lourdes parce qu'il a un cheval qui porte les armes en même temps. Et le peuple d'Israël avait peur des chevaux. Et Dieu leur a montré que les chevaux restaient des chevaux. C'était des animaux, pas plus. Cette histoire de couper les jarrets, c'est pour enlever leur peur. Quand ils ont vu ces chevaux incapables, c'était fini, les jarrets coupés, ils ne pouvaient plus avancer, ils ne pouvaient plus être redoutables, alors leur peur disparaissait. Et ils ont appris à ne plus avoir peur de ces cavaliers et de ne plus avoir peur de ces chars, parce qu'ils ont brûlé les chars au feu. Dieu n'a pas dit, vous les réutiliserez les chars, vous réutiliserez les chevaux. Non, il a dit, vous les brûlerez, parce que vous n'avez pas besoin de cela. Vous avez besoin de vous confier en moi. C'est Dieu qui l'a dit. C'est parce que le peuple d'Israël se confiait en Dieu, pas dans des chars et dans des chevaux. Ils n'ont pas retourné les armes de l'ennemi contre l'ennemi. Ils ne se sont pas armés des armes de l'ennemi. Les armes de l'ennemi sont restées aux ennemis. Et ce que le peuple d'Israël en a pris, il l'a brûlé. Parce que leur supériorité ne venait pas que brusquement, ils avaient des chars et des chevaux, mais leur supériorité venait de ce qu'ils avaient Dieu avec eux. Et c'était le combat de la foi. C'est pas que maintenant ils avaient de nouvelles armes et ils avaient des chevaux et des chars. Et donc ils allaient pouvoir combattre mieux parce que pas du tout. C'est Dieu a dit, vous ne les utiliserez pas. Et pour que la tentation soit effacée, alors ils étaient détruits. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Et il y a beaucoup de personnes qui, j'ai entendu souvent, pour combattre l'ennemi, il faut utiliser les armes de l'ennemi. Eh bien, détrompez-vous. Il y a une arme terrible, c'est la prière. C'est la prière de la foi. Si vous employez les armes de l'ennemi, si vous vous confiez dans ces armes-là, eh bien, vous aurez la défaite. Parce que le chrétien combat dans la prière. Le combat du chrétien, c'est l'intercession, c'est demander, c'est prier. C'est rechercher Dieu, c'est marcher devant Dieu. C'est cela la victoire du chrétien. Ce ne sont pas les armes du monde. Après, bien sûr, vous pouvez. Il y a des choses que on écrit des livres, le monde écrit des livres, mais il reste à en prouver que le premier livre était écrit par le monde. Hein. C'est le plus vieux livre de l'humanité, c'est le livre de Job. Donc, il semblerait que les inventeurs de l'écriture soient plutôt les croyants que les incroyants. Donc, c'est peut-être même un juste retour des choses que nous employons la page écrite, parce qu'elle a été peut-être inventée par les croyants. Ce que nous avons besoin d'apprendre, c'est que Dieu est avec nous. Quand nous marchons fidèlement, quand nous mettons le péché en dehors de nos vies, de nos réunions, quand nous mettons en dehors ce qui est mal, ce que Dieu désapprouve, eh bien, Dieu est avec nous. Il écoute les prières et il agit avec nous. Mais quand nous lassons et que nous baissons les bras, vous savez, on baisse les bras, on arrête de prier, on arrête d'intercéder, on arrête de rechercher le Seigneur, on arrête de marcher dans la sainteté, on se dit, oh, pourquoi bon? Juste un petit peu. Je vais m'arrêter un jour. Je vais me laisser un peu aller cette journée. Après tout, je suis fatigué de toujours combattre. Et c'est là que nous sommes en faute. C'est là que nous sommes en faiblesse. Mais quand nous combattons, quand nous marchons par la foi, quand nous continuons à intercéder, que nous continuons, ce n'est pas encore le jour du repos. Ce n'est pas encore le jour où nous rentrons à la maison. Nous sommes encore en pays étranger. Et encore il faut combattre. Et encore il faut lutter. Et encore il faut gagner des victoires. Mais on se confie en Dieu, pas dans l'homme, pas dans ce que produit l'homme. C'est Dieu qui nous dit ce que nous devons faire. C'est en son nom que nous marchons. C'est avec lui que nous faisons ce qu'il nous demande. C'est donc la leçon de ces chars et de ces chevaux avec les pattes coupées, parce que le peuple d'Israël n'en avait pas besoin. Ils avaient Dieu. Et s'ils les avaient eus, alors ils auraient plutôt mis leur confiance dans ces choses-là. Il y a un roi qui l'a fait. Ça n'a pas été une grande bénédiction pour lui. C'était Salomon. Salomon a eu des chars, il a eu des chevaux, il a construit des écuries un peu partout en Israël, et ça a fait monter son cœur et son orgueil. Il avait une vie qui n'était pas très nette, hein. 1000 femmes, ça fait beaucoup, hein. Et puis il avait beaucoup de chevaux. Alors il avait des écuries un peu partout, hein. Cette fameuse ville d'Hatsor dont on vient de parler, eh bien, était justement, il l'a reconstruite et ça a été une de ses écuries. C'est là qu'il avait des chevaux. C'est quelque chose, vous savez, que quand on a de la puissance, quand on commence à prendre s'étendre, à devenir grand et tout cela, alors on quitte le terrain de la foi et de la confiance en Dieu pour se reposer sur nous-mêmes. Et le peuple d'Israël, eh bien, à certains moments de son existence, a fait cette faute. Ils avaient des grandes villes fortifiées. Jérusalem avait été bien fortifiée. Les chevaux de Salomon, les chars, etc. Et puis, ça a été la défaite. Et c'était l'affaiblissement. Combien le règne de Salomon était un grand règne. Et c'était d'un homme très puissant et très riche. Et le règne de son fils, c'était plus rien. Le pays était divisé en deux. Tout de suite, après son règne, c'était fini. C'est la fin de cette puissance. Faut bien faire attention. En quoi nous nous confions? Qu'est-ce qui fait quelles sont les choses qui attirent le regard, qui attirent nos regards, et qui nous font dire, ça marchera. Pourquoi ça marchera? Parce que nous avons beaucoup de savoir-faire, parce que nous avons beaucoup de prédicateurs, parce que nous avons une école de théologie renommée, parce que nous avons des gens qui ont des diplômes avec des doctorats et des ceci et des cela. C'est pour cela que nous allons avoir la victoire. Si vous le croyez, alors vous êtes dans l'erreur. La victoire, elle appartient à l'Éternel. C'est lui qui combat pour nous. Et c'est lui qui dit au peuple d'Israël, « Demain, je les livrerai entre vos mains. » Demain. Mais il faut avancer. Il faut le croire. Il faut enlever les choses sur lesquelles on se repose. Il faut regarder vraiment à Dieu. Il faut employer les moyens que Dieu a prévus. Je me rappelle, un jour, j'étais dans la rue, il y avait un homme qui distribuait, qui parlait, et tout cela, et je suis allé le voir, et je lui dis, je suis chrétien aussi. Je fais partie d'une église. Quelle église? Je dis, une église baptiste, et tout ça. Ah, nous, c'est une église avec le Saint-Esprit. Ah, je crois que la nôtre aussi, il y a le Saint-Esprit. Alors, il m'a dit, vous passez des nuits en prière? Je lui dis, si le Seigneur nous le demande, pourquoi pas? Mais il y a des personnes, même sur les choses bibliques, affirment une supériorité qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas aux heures de prière que Dieu compte, c'est à la vraie prière. Vous pouvez prier 10 heures sans avoir vraiment prié, tandis qu'il y a des personnes qui ont prié 5 minutes, mais vraiment intensément. Et Dieu a exaucé leur prière. Parce qu'ils ont vraiment prié. Ils ont vraiment demandé à Dieu et ils se sont confiés en lui et ils ont obtenu. Il y a des personnes qui se confient dans le nombre. Nous sommes, je me rappelle d'un... C'était un prédicateur, aujourd'hui il a disparu totalement du monde évangélique. C'était un nom connu il y a 30 ans, 25-30 ans. Et un jour il me dit, tu sais, si on se réunit tous, c'est beaucoup plus, toi tu es dans ton petit coin là-bas, et qu'est-ce que tu fais? On se réunit tous, on crée une grande association que de tous les évangéliques et on arrive à... Sa grande association, elle existe, hein, ils ont réussi à la fabriquer. Mais je ne veux pas dire le nom ici. Mais c'était la puissance du nombre. Et on se dit, là, quand nous serons nombreux, nous serons puissants. Nous sommes puissants parce que nous avons Dieu avec nous. Si nous sommes nombreux et que Dieu n'est pas avec nous, alors nous sommes faibles. C'est notre puissance, notre force, elle est en Dieu. Et ce n'est pas dans le nombre, ce n'est pas dans la multiplication des choses, ce n'est pas dans vos insomnies que vous pouvez placer votre confiance. La confiance, elle n'est pas placée sur ces choses-là. La confiance, elle n'est pas placée sur Dieu. C'est Dieu qui est notre victoire, c'est Dieu qui est notre secours, c'est Dieu qui nous prend par la main, c'est Dieu qui nous amène dans le bon chemin, c'est à sa lumière que nous marchons, c'est en suivant les enseignements de sa parole, quand nous marchons dans l'obéissance à sa parole, là nous sommes forts. Mais vous pouvez avoir des semaines de prière, vous pouvez avoir lire la Bible. Je me rappelle d'un homme qui lisait la Bible, toute la Bible, entièrement, une fois par mois. Oui. J'ai essayé. Il faut lire 40 chapitres par jour. Tu sais, j'ai compté, j'ai essayé. Hein. J'ai même fait un plan de lecture pour lire en... Il faut lire donc 32 chapitres de l'Ancien Testament et 8 chapitres du Nouveau. Ça fait maintenant plus de 30 ans que j'ai fait ce calcul et je me rappelle encore des chiffres pour vous dire que ça m'a marqué. Mais ça n'a pas été une réussite dans ma vie. Hein. C'est parce que j'ai voulu l'appliquer. Et c'est une erreur. Une très très grave erreur. Parce qu'on ne se base pas. On lit la parole de Dieu pour y obéir. Pas pour faire des performances. Combien de temps vous passez pour lire ceci ou cela? On lit la parole de Dieu, non pas pour avoir lu, mais pour y obéir. On prie, non pas pour avoir prié, mais pour être exaucé dans nos prières. C'est pas parce que nous avons passé 10 heures dans la prière que nous sommes exaucés. C'est pas parce que nous avons lu 50 chapitres par jour que nous serons de meilleurs chrétiens. C'est quand nous marchons dans l'obéissance de la foi, que nous marchons à la lumière de Dieu, que nous faisons ce qui lui est agréable. Et le peuple d'Israël l'a appris dans ses combats contre tous ses ennemis, cette multitude qui était comme le sable sur le bord de la mer. Vous savez comment Dieu a changé le monde? Dieu a changé le monde. Il a envoyé son fils. Il a envoyé où? Dans une étable. Si, avec nos raisonnements humains, il serait né dans un palais royal, il aurait eu plus d'influence. Il aurait été riche, il aurait eu plus d'influence. Il aurait enseigné... 200 ans, allez, hein, on n'est pas, hein, lésions pas sur les années. Il aurait prêché pendant 200 ans, mais il est mort à 33 ans, sur une croix, comme un bandit, comme un criminel. Et Dieu a sauvé le monde de cette manière-là. Comment Dieu, quelles sont les personnes qu'il a envoyées pour évangéliser après sa mort? 12. 12. Il y avait 120 personnes dans la chambre haute, mais il y avait 12 apôtres. Un jour, j'ai fait un calcul. Il y avait 6 de ces apôtres qui étaient habitants du lac de Galilée. Voilà. Bethsaïda, Capernaum, Cana. C'est des petits villages. Ils sont tous à 2 ou 3 kilomètres l'un de l'autre. Hein. Et il est probable que le Seigneur Jésus connaissait Pierre et André et Jacques et Jean et avant même qu'il les ait appelés à le suivre, parce que c'était ils habitaient les villages qui étaient juste à côté. C'est parce que Cana, Nazareth, Bethsaïda, tout ça, c'est à côté, hein. Mais c'était des pêcheurs sur le lac de Galilée. Et c'est eux qui ont annoncé l'évangile. Ce n'est pas avec la grande puissance, ce n'est pas avec le nombre, ce n'est pas avec les grands moyens financiers, ce n'est pas avec ceci ou cela, c'est avec Dieu, avec la foi en Dieu. Nous marchons au nom de l'Éternel. Eux, ils se confient dans leurs chars et dans leurs chevaux. C'est le psaume 20, hein. Ils se confient dans leurs chars et leurs chevaux. Nous confions dans le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous restons fermes et nous restons debout. C'est parce que nous nous confions dans le nom de l'Éternel. Et même il y a eu des géants. Et il y a eu une longue guerre. Parce que quand on lit, là, il y a eu une bataille dont il est question ici. Mais après, dans la suite du chapitre, on voit que c'est en détail. Ils sont allés dans les villes et les villages, les uns après les autres. Et c'est une guerre qui a duré des années, pour dire presque une quinzaine d'années. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour. C'est un long combat. Mais c'est le combat de la persévérance. Il y a la grande bataille où on remporte de grandes victoires. Mais après, il y a des petites batailles, les unes après les autres, jour après jour, et on combat. On gagne. Chaque centimètre, on le gagne en combattant durement, et on avance. Parce que chaque centimètre gagné, c'est un centimètre de plus qui est gagné. C'est quand une âme est gagnée, c'est une âme de plus qui est gagnée. Quand l'évangile est prononcé, quand on parle de l'évangile dans un quartier, dans un nouveau quartier, c'est un pas en avant et c'est un combat. C'est un grand combat, mais c'est un combat qui est parfois dur et qui a tendance à émousser notre persévérance et notre foi. Mais on se renouvelle. On se reconfie dans le Seigneur, on se reconsacre. Dès que l'on sent que l'on commence à s'attiédir, à se laisser aller, on a des doutes, on dit non, le Seigneur est toujours avec moi. Satan dit ça. Il laisse entendre qu'il a raison. Il laisse entendre qu'il est une grande armée, qu'il a des chars et des chevaux et qu'il est capable de nous réduire en miettes. Mais nous, nous avons l'Éternel, le Dieu vivant. Il y a des gens qui disent oui, mais ils ont les médias, mais ils sont à la tête du gouvernement, mais ils ont ceci, mais ils ont cela, qu'ils le gardent. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons avec nous le Dieu vivant et nous marchons en son nom et nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Et si vous trouvez que c'est dur, eh bien, c'est parce que c'est le combat de la foi. C'est vrai, c'est dur. Si quelqu'un a dit que ce n'était pas dur, eh bien, il vous a menti. C'est dur parce que c'est un combat. Et il faut la foi. Il faut se confier en Dieu. Et c'est vrai que ce n'est pas dans notre nature humaine d'avoir la foi. Ce n'est pas dans notre nature humaine de se confier en Dieu. Ce n'est pas dans notre nature humaine de prier et de chercher Dieu et de renoncer au péché, de renoncer à certaines mauvaises habitudes, certaines mauvaises pensées, certaines mauvaises choses. Ce n'est pas humain. Mais avec Dieu, eh bien, nous avançons et nous faisons des progrès. Et c'est parfois petit à petit, lentement, mais les progrès se font. Dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, les choses auront avancé parce que nous marchons avec Dieu. C'est très important. Ce monde est perdu. Satan est un vaincu. Il essaye de nous faire croire que c'est lui qui est vainqueur et qu'il aura le dernier mot. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez une chose, Satan, c'est un menteur. Le seul qui dit la vérité, c'est Dieu. Satan est appelé le père du mensonge. Quand il ment, il dit ce qui est au fond de lui-même. Il ne sait pas dire la vérité. Jamais il dit la vérité. Mais Dieu dit toujours la vérité. Quand Dieu a parlé, c'est vrai. Et si nous ne nous confions pas dans ce que Dieu a dit, nous avons tort. Parce que nous croyons celui qui est menteur. Et celui qui essaye de nous séduire dans un mauvais chemin. Mais avec Dieu, eh bien, nous avons la victoire.